Mais comment je sais pas, parce que je crois que c'est parce que c'est une pièce connue, mais en même temps, c'est comme un espèce de. Je sais pas ici à Paris, mais quoi que je pense à Paris par elle, c'est encore la vanguarde. C'est-à-dire que c'est, j'ai fait deux fois dans des CDN, et Tadeau qui avait deux séries dans des centres olympiques nationaux, donc il y a quand même un public en province, un peu éclairé, mais enfin très la bourgeoisie de ville de province comme Besançon et Dijon. Et où d'un seul coup, c'est quand même l'avant-garde.
Ça donne l'or l'avant-garde. Mais c'est l'imaginaire des gens.
Oui, oui, tout à fait. Alors, par exemple, ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai mis en scène de manière très. Je pense que c'est bien. Enfin, évidemment, c'est une question sur l'absurde et tout. Le spectacle paraît beaucoup plus logique. Ça paraît pas si absurde que ça. Et donc le public, par exemple, très très surpris de la cohérence, au fond. Il s'attend à une chose. Il s'attend à une chose qui tiendrait de l'écriture automatique. Très souvent, parce que moi j'ai fait des débats ou tout ça, les gens ils pensent que c'est une pièce en écriture automatique, pas littéralement, ce qui pourrait paraître un peu le cas à la fin de la pièce, mais pour les premières scènes, les quelques grandes premières scènes, entre Monsieur Smith, Madame Smith, les Martin et tout ça, ils sont très surpris de la logique et de la cohérence qui arrive. Alors que je pense que c'est une pièce que les gens ne connaissent pas.
Non, c'est absolument pas.
Et donc, il y a une espèce d'a priori autour de la pièce. Alors, bon. Et bon bah là dans le spectacle, j'ai fait les gens rient beaucoup, beaucoup. Alors, ils sont très surpris aussi que au fond on rit beaucoup parce que il y a un climat toujours un peu. Le cadre de l'absurde, c'est un peu tout gris. Quoi.
Ouais, c'est un peu... Mais alors c'est terrible ce que vous dites, parce que les gens s'attendent à quoi et pourquoi viennent-ils alors
parce ils viennent, parce qu'ils viennent un peu comme au musée quand même.
Ouais, c'est ça, oui.
Ils viennent voir un classique du 20e siècle.
Voilà, ouais.
C'est ce qui a l'air d'arriver avec Beckett, enfin je veux dire, sauf que je voulais monter en attendant Godot et que je suis pas. Enfin j'ai obtenu les droits mais pas pour la France entière, donc j'ai renoncé, mais c'est ce qui arrive avec en attendant Godot, c'est-à-dire que les gens viennent voir un classique du 20e siècle, comme on pourrait monter, je ne sais pas quoi, certaines pièces de Brecht, voilà. Et là, ils viennent voir l'idée que la. Ionesco reste, oui, le thème de l'absurde, et surtout cette pièce-là, quoi.
Ils s'attendent au pire, alors, en plus.
Non, ils s'attendent à voir quelque chose qui va les... qui va être un peu, oui, c'est ça, l'écriture automatique, qui va être un peu loin de leur habitude, et tout ça. Alors, bon, parler du spectacle, ce que j'ai fait, c'est que... j'ai mis en scène... Ça se passe dehors, c'est très coloré. C'est-à-dire, la description du décor, c'est une maison, enfin, c'est la façade d'une maison. Et ça se passe sur une pelouse très anglaise, une pelouse, petit jardin très simple, comme ça, avec une maison blanche et des petites fenêtres et tout ça. Sachant qu'on s'aperçoit très vite que, on s'en aperçoit, je crois pas du tout au début, mais que, il y a un problème de perspective. C'est-à-dire que tout ça a l'air absolument normal, mais on voit que par exemple, la maison est un tout petit peu plus petite qu'elle ne devrait. Et aussi que les personnages s'en rapprochent, mais il y avait des effets de perspective qui font qu'à un moment donné, on voit quelque chose qui va pas très bien. Et surtout, cette idée de façade de maison, qui est très en bois, très, on dirait comme une maison, comme dans un tableau de hauteur, je sais pas. En même temps, c'est très très appuyé que ce n'est qu'une façade, c'est-à-dire que c'est un décor. On est là pour faire semblant, on fait semblant, on fait très bien semblant, mais à un moment donné, on nous manque... On sent que derrière, ça va pas bien loin. Quoi. Quand les gens ouvrent les portes ou les fenêtres, on voit que là-bas derrière, c'est... Y a rien. C'est une feuille de... C'est comme un western. Vous savez, comme dans les films de western, c'est là. Y a que la façade. Alors ça, c'est pour le décor. Donc sur une pelouse verte, avec une haie verte, avec des fleurs rouges, la maison est toute blanche. Et puis, les coupes sont interchangeables. À la fin de la pièce, on voit ça. Et là, ils sont interchangeables depuis le départ, puisque les deux femmes sont habillées pareil. Exactement pareil. Elles sont dans des costumes. Je n'ai pas pensé, mais tout le monde dit ça. Alors, elles font très reine d'Angleterre. Je pense, c'est bizarre parce que je ne pense pas que ni moi ni la costumière n'avions vraiment pensé à ça. Enfin, bon, elles sont en espèce de tailleur Chanel un peu rose, pas rose, mais avec des chapeaux à fleurs. Enfin bon, elles sont habillées exactement pareil et les deux hommes sont habillés exactement pareil, dans des costumes gris. Et c'est très coloré parce qu'ils ont une cravate orange. Etc. Quand je raconte ça, ça peut faire un peu kitsch et tout, mais je crois que ça fait très, surtout, c'est très coloré comme pourrait l'être.
je sais pas,
les couleurs qu'il y a dans mon ongle jactatif ou des choses comme ça. C'est-à-dire un peu comme une chose un peu au bord entre le dessin animé et le feuilleton américain des années 50, c'est-à-dire où les couleurs sont un peu surexposées. Tout ça. Alors les deux femmes se liaient pareil, les deux hommes se liaient pareil, mais la distribution, alors il va y avoir une reprise où il y a un acteur que je suis en train de remplacer, mais à la création, Monsieur Smith, c'était un acteur assez roux, qui n'est pas très grand, mais dans les mois d'un mètre 70. Madame Smith est une actrice très grande, et avec talons et avec chapeau, elle arrivait à 1m90. Et Madame Martin est une actrice qui mesure 1m48. Et le garçon qui fait Monsieur Martin est un grand garçon maigre, je crois tout à fait remplacé. Donc ils sont deux couples, ils sont habillés exactement pareil, mais Madame Smith et Madame Martin sont habillées pareil, mais il y en a une qui mesure 1m50 et l'autre mesure 1m90. De même costume et tout ça. Alors, enfin, les effets de perspective.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, toujours les...
C'est-à-dire qu'on voit arriver une dame. Je dis ça parce qu'après il y a eu 20 dates, et pendant 20 dates il a fallu, vous savez, c'est les trucs de la mise en scène où après il faut décaler un petit temps, parce qu'on n'avait pas pensé à ce point-là, mais il y a un gag absolument stupide où les Martines arrivent derrière la haie, et donc comme elle a un chapeau avec plein de fleurs sur la tête, on a calculé la haie à la hauteur de son chapeau, donc on voit arriver Monsieur Martin avec devant lui un bouquet de fleurs, donc on pense qu'il est tout seul, il marche le long d'une haie et tout ça, et quand il arrive là, il y a une porte qui s'ouvre, et on voit qu'il y a une dame qui est exactement la réplique de la dame qui vient de sortir, mais qui elle mesurait 1m90, et il a fallu décaler parce que sur toutes les représentations, c'est un tabac dans la salle, vous êtes obligé d'attendre à peine qu'ils aient fini parce que autrement on n'entend rien du début de la scène. Mais donc c'est très comme ça, mais c'est très. J'ai beaucoup demandé aux acteurs de se jouer très très sérieux. Alors ils jouent comme. Alors il y a toute une chose dans le spectacle, parce qu'après avec la bonne qui se prend plus ou moins pour Sherlock Holmes, j'ai pris ça un peu au pied de la lettre dans le gars de Charles. Vous savez, elle dit je suis pas Mary, je suis Sherlock Holmes. Et puis le pompier a l'air très inquiétant. Alors, eux deux sont en noir, un peu comme des jokers, enfin, tout est très très coloré, eux deux sont enfin, en noir, enfin, il est en pompier, enfin, il y a autant de garde républicain que du pompier d'ailleurs, enfin, il est très, c'est trop, c'est-à-dire qu'il a un tasque avec des, c'est un truc très, c'est comme les gardes républicains. Et puis la bonne, c'est un peu trop, elle fait trop bonne, quelque part, très, mais la bonne change très très souvent de costume, mais c'est toujours une bonne, mais elle a une jupe jusque très 19e siècle, enfin, un peu jusqu'au mollet, à d'autres moments elle a une chose très 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 courte, enfin tout ça. Le public n'est pas toujours sûr qu'elle a changé, quoi, parce que ça change à peine, mais en fait elle change très souvent de costume. Et j'ai demandé aux acteurs de jouer, donc ils sont dans des choses qui tiennent un peu du dessin animé, qui tiennent beaucoup, oui quand même, du feuilleton télévisé, l'année 50, un peu, je ne sais pas si vous voyez comment il était, Peyton Place, ou des choses comme ça. Donc cette absurdité-là, je veux dire, et puis c'est renforcé un peu parce que, 3-4 fois au tout début du spectacle, et les répliques sont soulignées par des rires enregistrés, exactement, vous savez, comme dans tous les feuilletons télévisés, on entend rire alors qu'il n'y a rien de drôle, il n'y a absolument rien de drôle. Mais ça fonctionne très bien parce que le public voit que, on rit de choses qui ne sont pas forcément drôles et qu'on ne va pas rire de choses qui le sont. Enfin, ça,
donc il y a déjà un décalage dans votre travail, puisqu'il y a un regard par rapport aux années 50 en plus.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est très... enfin, qu'est-ce que c'est les années 50 et puis qu'est-ce que c'est les années 50 maintenant, enfin,
ouais, c'est ça. Oui.
C'est-à-dire le côté, oui, Peyton Place, je ne sais pas, les feuilletons. Et puis, ça c'est la première chose. Et puis, c'est quoi, je me suis surtout dit... C'est quoi l'absurde d'aujourd'hui? Voilà, en fait. Je me suis dit, c'est quoi l'absurde d'aujourd'hui? Et l'absurde d'aujourd'hui, c'est les feuilletons à la télévisée, auxquels vous ne comprenez strictement rien, parce que si vous ne regardez pas, ma grand-mère qui est accrochée depuis 3 ans au même, et qui donc sait où on en est, vous ne savez jamais où vous en êtes dans ces machins-là. Et les gens disent des trucs, comme dans la connaître chaude, ils se disent très souvent, je suis votre épouse, John, et lui dit oui, je me souviens. Enfin, des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils se redisent les choses. Ouais. Et dans la connaître chaude, ce qu'on voit, c'est que les gens se disent des choses qu'ils sont censés déjà savoir. C'est-à-dire qu'ils se disent tout le temps ça, ils se disent on a bien mangé, vous et moi, on a un enfant. Enfin, ils se disent des choses comme ça tout le temps. Alors on se dit c'est débile, parce que tout ça, ils sont censés le savoir. Mais alors je me suis dit, l'absurde, c'est quoi? Parce que ça ne veut plus rien dire qu'on va venir, je crois, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le théâtre de l'absurde. Parce que en 1990, 91, un deuxième niveau de langage dans ce pays, tout le monde le pratique. C'est-à-dire que tout le monde, par exemple, les adolescents, parce qu'il y en a beaucoup qui venaient voir le spectacle, les adolescents, ils parlent, ils disent une négation pour une affirmation. Ils disent... comment a dit ta fille l'autre jour que j'ai dit que je prenais...
C'est mortel.
Ah oui, elle a dit c'est mortel pour dire que c'était formidable. Quelque chose. Bon, alors ils disent à l'inverse. Et que donc, en 1955, comme ça, ça pouvait être absolument... c'était, comment dire, absurde. Et maintenant, au fond, il y a des tas de choses dans le spectacle qui paraissent très logiques. Ah oui, très logiques. Qui paraissent absolument évidentes, alors qu'on voit bien qu'à l'époque, ça ne pouvait pas marcher. Enfin, ça marchait, que le public ne comprenait pas. Tandis que maintenant, ça lui paraît évident qu'on dise l'inverse. On dit les choses qui sont l'inverse.
Ouais, tout ça.
Et ça, ça paraît... il n'y a pas le phénomène d'étrangeté. Ça, ça s'est perdu dans la langue. Parce que c'est un pays qui est très... Moi j'ai habité en Allemagne, ça n'existe pas en Allemagne, mais en France vous pouvez très bien dire, par exemple c'est très net sur les négations, vous dites la négation mais dans le contexte fait qu'on sait que vous êtes d'accord, vous plaisantez en disant une négation. Donc très souvent dans la pièce, il y a une affirmation suivie de la même idée en négation, et au fond ça dit la même chose.
Ah oui,
alors qu'à l'époque ça paraissait le sommet de la... on disait une chose et une autre, donc là on dit la même chose. Donc il y avait toute cette absurdité dans le langage qui est devenue comme un jeu. Les gens comprennent plus facilement, comprennent plus vite ça. Donc ils rient pas de la situation absurde, ils rient de ce qui se dit, de ce qui se dénonce. Et puis je voulais qu'il y ait des situations... j'ai pris au pied de la lettre un certain nombre de choses, parce que je trouve qu'il y a une grande cohérence dans la pièce, c'est-à-dire, contrairement à ce que des fois on en disait, c'est-à-dire qu'il y a des renvois, il y a des retours aux choses, enfin, donc on voit que ça ne fonctionne pas en écriture automatique, comme ça on verra bien, il y a des choses à peine, des fois un film, mais qui rappellent une chose qu'on a dit plus tôt. Alors j'ai pris très au pied de la lettre, il y a un certain nombre d'allusions à des choses policières, avec le pompier, avec la bonne, entre eux, ils ont des choses, ils préfèrent pas en parler, ils préfèrent arrêter là-dessus. Comme si j'avais toujours une espèce de paranoïa, comme ça, qui traînait par là. Donc ils s'arrêtent parce qu'ils ont une inquiétude, quelqu'un a dit quelque chose qui leur paraît, vaudrait mieux pas qu'on continue sur ce sujet, ou ils entendent un bruit, l'horloge, ou des choses comme ça, fait qu'à un moment donné, ils ont des inquiétudes. Voilà. Alors ils sont très... c'est comme si c'était des gens qui passent une très bonne soirée, mais qui ont une inquiétude, qui ont des angoisses, qui ont des... qui ont... monsieur et madame Smith, par moment, visiblement, ne veulent plus du tout parler avec monsieur et madame Martin. Voilà. Ils ont peur de leur dire des trucs, ou tout ça. Ou alors ils leur disent des mensonges, enfin... Et on sait que c'est des mensonges, parce qu'on a appris plus tôt que c'était autrement. Enfin, donc, l'espèce de cohérence est... comme les acteurs sont très très sérieux, comme ça a l'air d'être une chose très sérieuse, ils sont même par moments, enfin surtout à la fin, il y a dans un rapport d'agressivité entre eux très... au début très souple, puis après qui devient violent, comme ça, on se dit, bon, ils ont des tas de secrets, on ne sait pas quoi, on ne comprend pas très bien. C'est comme les pièces policières, vous savez, théâtre anglais,
mais,
les pièces d'Agatha Christie, sauf que là, on ne sait jamais qui a fait le coup, quoi. On ne sait pas, voilà. Je ne sais pas, il y a une réplique par exemple où on dit mais quand le voisin ça a brûlé chez lui, c'est un étranger, et on dit, le pompier dit, on peut pas éteindre chez les étrangers, ils ont le droit d'avoir des maisons, mais si elles brûlent, on ne les éteint pas. Et M. Smith dit mais quand le feu s'y est mis l'année dernière, on l'a pourtant éteint. Alors il dit, il n'avait pas le droit, ils ont fait ça clandestinement. Et ils disent, eh ben, c'est pas moi qui irai le dénoncer. Et dans le spectacle, la manière dont il dit, c'est pas moi qui irai le dénoncer, on se dit qu'ils vont aller le dénoncer. C'est-à-dire que les acteurs font que ce ne sont des collabos en puissance. Enfin, c'est-à-dire que voilà. Alors, je fais ça. Et puis, ce qui renforce cette idée un peu télévisuelle, puis enquête policière, c'est que j'ai fractionné la pièce, c'est-à-dire qu'il y a des noirs, mais à peine, c'est-à-dire que pas obscurité totale, puisque la maison, par exemple, reste éclairée, ou le ciel reste éclairé et tout, mais si vous voulez, à la fin d'une phrase, exactement comme dans les trucs policiers, on dit une phrase, et cette phrase est porteuse tellement de sens qu'on arrête un instant pour passer à autre chose. Vous savez, le truc où on dit, Par exemple ça, il dit, eh ben, c'est pas moi qui irai le dénoncer. Et ça s'éteint. Et ça se rallume aussitôt. Vous voyez, c'est-à-dire que les acteurs n'ont pas changé de place.
Des changements de plan.
Oui, c'est ça, des changements de plan. Et exactement comme dans les trucs policiers, qui d'ailleurs des fois sont soulignés par la musique. Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a une bande son très importante. Et il y a une musique de très régulièrement de Carla Bley. Donc une musique qui fait très. Comme une chose connue,
ouais.
Et puis qui en même temps est déglingué un peu. Donc on entend, si vous voulez, ça tient un peu du. Oui, c'est ça, de la. C'est la musique qui connote, comme dans un film policier ou tout ça. Sauf que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça ne nous apporte rien sur la suite. Mais les gens ont l'air de faire des allusions à quelque chose qui fait qu'on arrête, qu'on repart plus tard, ben qu'on marque un temps, qu'on change de plan, et tout ça. Et puis, donc il y a tout ce côté un peu des secrets. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, comment j'ai travaillé avec les acteurs, je leur ai dit, sur telle scène de je ne sais pas, 15 répliques, puisqu'on va commencer là, arrêter là, mais on ne changera pas de place dans le noir, on gardera des choses comme ça. C'est très difficile pour eux d'ailleurs de passer à une autre idée. Vous voyez, ça s'éteignait, ça se rallumait, et ils disaient bon, ils faisaient la fête, ou, ça, mais il y avait toute cette espèce de choses secrètes, mais on s'est raconté des histoires. C'est-à-dire que, je donne un exemple, la scène est très au bord du graveleux, en plus au bord du graveleux, quand Madame Martine raconte que dans le métro, elle a vu quelqu'un qui lisait son journal, alors elle n'arrive pas à le dire et tout ça. Bon. Et alors on se dit, la manière dont elle le raconte, c'est qu'elle va raconter une cochonnerie, vous savez, comme des couples un peu comme ça qui vont se mettre à raconter des horreurs, des petites histoires un peu salaces, mais elle n'ose pas raconter, puis c'est son mari qui veut qu'elle raconte. Elle est obligée de raconter devant les autres. Alors on ne sait pas pourquoi, mais pendant qu'elle raconte, elle est obligée de relever un peu sa jupe. À peine elle relève comme ça sa jupe, et c'est comme une chose, comme une humiliation, mais c'est comme ça que la striptease obligée d'aller un peu, parce qu'elle est un peu timide, quoi. Alors j'aurais raconté des histoires par scène, c'est-à-dire qu'ils disent une chose, mais par moments ils ont un sous-texte, ils avaient un sous-texte énorme d'ailleurs, enfin, ils avaient un très fort sous-texte. Et aussi avec, mais je trouve, parce que c'est dans la pièce, je trouve que c'est, dans la pièce ils ont, les quatre personnes.
C'est plus la discussion de la roulotte et puis les comédiens dans la.
Bon. La salle, tu bois un café? Mais les personnages sont très. On se dit les personnages sont interchangeables, mais quand on lit vraiment bien la pièce, c'est pour ça qu'il y a des rapports de force et que. Moi, il m'a semblé en tout cas que Madame Smith est très autoritaire, avait des très autoritaires par exemple par rapport à M. Martin, très péremptoire par rapport à M. Smith. Que M. Smith était plutôt très très apeuré, vous savez, l'histoire d'aller ouvrir la porte et tout ça. Enfin, bon. Alors, ça par exemple aussi, c'est très renforcé sur l'idée policière parce que on entend sonner, alors la musique, vous savez, c'est très. J'ai utilisé Carla Bley et des musiques des films d'Hitchcock, mais très fractionnées, 5 secondes comme ça. Vous savez, des coups très soulignes. Monsieur Smith est très inquiet, très apeuré comme ça. Monsieur Martin a l'air très, comment dire, il est prêt absolument à toutes les compromissions, que tout aille toujours bien. Enfin, il est toujours prêt à tout, à discuter comme ça. Et Madame Martin est terrorisée, bon, c'est pas pourquoi. Mais ça, c'est parce que je trouve que c'est dans les tout petits recoins du texte. Mais on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi elle répond toujours ça, ou tout ça. Donc, sans faire de la psychologie, je me suis dit, il faut qu'ils aient une histoire. Voilà. J'ai fait, comment dire, les acteurs disent que j'aurais pu écrire une pièce sur les personnages de la cantatrice. C'est-à-dire qu'il y a une pièce. J'étais extrêmement vigilant sur le respect du texte, absolument, puisque en plus, la bonne dit aussi les indications, le peu d'indications scéniques, mais enfin, j'ai tout pris au pied de la lettre, c'est-à-dire on les coups de sonnette, on y a droit à tous, il y a une scène où il y en a, je ne sais pas combien, 29, on a 29 coups de sonnette, enfin, bon, il y a tout ça. Elle a aussi donné les indications, y compris les réserves, vous savez, la mise en scène de Nicolas Bataille, du Gallimard, elle dit, par exemple, il dit il y a 2 mois environ, et elle dit, la bonne dit, on a changé par en avion, mais l'auteur n'était pas d'accord. Je sais plus quelle est la note. Bon. Donc on a tout mis, compris les indications de ce type. Oui, tout. Et puis, par contre, je leur ai vraiment raconté une histoire. C'est-à-dire que cette scène, c'est comme ça, cette scène, c'est comme ça. C'est-à-dire. Et puis, encore derrière ça, mais je crois que ça c'est lié à cette espèce de paranoïa qu'il a, c'est qu'ils ont l'air toujours un peu. Moi, je disais très vulgairement avant de monter le spectacle que c'était une pièce qui parlait de sexe mais causait pas en parler. Alors, et je trouve parce que, en plus, c'est une caricature du théâtre de boulevard. Et le théâtre de boulevard ne parle que de fesses, mais ne le dit jamais. Enfin, il y a toujours allusion à ça, mais il parle beaucoup plus maintenant. Mais il y a 10 ans ou 15 ans, les pièces qu'on voyait à la télévision, en fait, étaient incroyablement. Avaient un sous-texte très salace. Et c'était tout est bien pensant et très réactionnaire sur comment ça se résout à la fin. Et la connaître chaude est très allusive à ça. C'est la bonne, c'est le pompier qui ont déjà couché ensemble peut-être l'après-midi, elle a déjà couché avec un homme l'après-midi et tout ça. Mais monsieur Valère de Suisse, monsieur Valère Martine sont des gens extrêmement respectables, mais il y a la situation de Boulard, c'est la bonne qui fait des trucs, comme ça. Alors, comme c'est sous-entendu dans le texte, c'est pareil dans le jeu, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien sûr, ils ont l'air très chic, ils sont très respectables, et puis par moment on se dit, par exemple, je ne sais pas, les deux femmes ont des mouvements absolument, elles poussent des vrais soupirs quand elles voient le pompier, enfin, des choses comme ça, mais à peine, c'est-à-dire que, et c'était très bête dans les représentations, c'est que le public n'est pas bien sûr d'avoir bien vu ça, il se dit tout ça est très respectable, ouais. Et puis d'un seul coup, je ne sais plus, il y a la huit qui dit, elle doit dire en tout cas votre service, monsieur le pompier, et alors avant elle se vautre par terre sur la pelouse, mais à peine comme ça, elle en profite pour croiser les jambes d'une manière qui fait que bon, admettons. Mais voilà, c'est toujours un peu comme ça, admettons. Et alors, par contre encore, ce qui je crois change, alors là beaucoup des autres mises en scène, c'est que j'avais demandé les droits pour les scènes inédites. Alors j'ai mis en scène les scènes inédites. C'est-à-dire que vers la fin de la pièce, les personnages, après que le pompier soit parti, les personnages se disputent très très fort. C'est comme une espèce de bataille, ils viennent un peu, ils s'arrachent les vêtements et tout ça. Alors ils s'engueulent très très fort. Et la maison finit par le pompier et la bonne reviennent en courant parce que c'est le cirque. C'était comme si c'était le pompier et la bonne qui tenaient un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils étaient comme des jokers et tout ça. Et puis ils reviennent pour essayer de les calmer, mais c'est impossible. Et comme ils courent, la bonne cesse de claquer la porte avec violence, alors qu'on voit que c'est un décor, que c'est la maison et rien. Mais pendant tout le spectacle, elle claque la porte très très violemment, alors que le public se dit c'est pas solide, et ça tient très très bien. Et à la toute fin du spectacle, la maison s'écroule. Alors, d'abord c'est spectaculaire parce que comme la façade entière tombe, le public en général pousse un hurlement parce qu'il croit que les acteurs...
Oui, c'est pas exprès.
En plus, si c'était dit depuis une heure, ça va sûrement finir par arriver, mais maintenant c'est pas arrivé. Et puis, la maison tombe, et surtout la manière dont c'est réglé, fait qu'elle tombe à 50 cm derrière le... Derrière les acteurs. Et vu de la salle, on croit toujours que la maison tombe dans les acteurs. C'est pour le moment, j'ai heureusement réglé que ça n'arrive pas. Mais donc la maison s'écroule, et... On est très embêtés, quoi. Ça nous cale, ça calme les personnages, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se disputer. Qu'ils ne sont plus tout à fait les personnages qui se sont arrachés les chapeaux et boucles de feu. Et puis, la maison est tombée, donc ils ont peut-être été un peu trop loin dans le... Bon, dans la représentation. Alors ils sont un peu gênés. Et puis, on voit, comment dire, parce qu'il s'était beaucoup moqué de Brecht aussi, de ça. Du théâtre de boulevard, mais aussi du théâtre sur la fin. Et alors, donc... plus de fou brechtis où on se dit c'est très embêtant cette maison par terre tout ça. Et alors les personnages s'en vont discrètement, si ce n'est que c'est visiblement monsieur et madame Martine qui ont été désignés par les autres pour se débrouiller avec le public, quoi, puisque ça tourne mal. Donc très au milieu des décombres, puisque la maison est par terre, ils reprennent les choses comme au début, c'est-à-dire ils recommencent la pièce qui était la fin de Ionesco. Alors ça, c'est quand les profs de lycée qui ont étudié la colère des choses savent que c'est là que ça s'arrête. Mais au moment où ils recommencent, ils redisent quelques premières répliques. Ils sont exactement pareils, sauf que donc Madame Martine fait année de 50, l'autre faisait année de 90, mais c'est pareil. Et puis la maison est par terre. Et puis, ils recommencent la pièce, et après j'ai mis en scène les scènes inédites. Alors les scènes inédites, vous voyez comment elles sont, enfin...
Elles sont en Pléiade chez... Oui, qui sont en cours de texte, de toute façon. Non, parce qu'il y a plusieurs fins.
Il y a trois. Mais elles ne sont pas écrites comme du théâtre. Elles sont écrites, alors on aurait pu faire ça. aussi, et ça, ouais. Justement. Alors, c'est les pas qu'il a proposé, mm-hmm. C'est des qui n'ont jamais été mis en scène, ouais, parce qu'il faut... Ouais. Faut trop d'acteurs, ça coûte trop cher pour 5 minutes, enfin bon, tout ça. Donc, il y a trois fins possibles. D'ailleurs, il y en a deux qui sont exactement pareilles, en fait, quasiment. Ouais. Sauf qu'il y en a une qui est plus petite, plus courte. Alors, ça recommence, et puis les autres acteurs reviennent au milieu des décombres et tout ça. Et alors, c'est très faux brechtisme. C'est-à-dire qu'ils viennent comme ça, acteurs du spectacle, ça fait une espèce de photo de groupe, c'est-à-dire les six comme ça. Et puis ils expliquent au public que bon bah ça finit comme ça, mais on aurait pu finir autrement. Alors on aurait pu faire ci, puis ça. Alors le public se dit bon, admettons, mais au fur et à mesure que les acteurs racontent ça, leur hargne les uns par rapport aux autres, leur vieille paranoïa d'avant, et puis l'absurdité de ce qu'ils racontent comme étant des fins possibles, tout ça réapparaît très très vite, quoi. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au fond, on retombe dans... C'est comme si les acteurs en coulisses étaient encore plus cinglés que les affaires qu'ils jouaient. Mais parce qu'on voit ça, ils expliquent alors... Par exemple, il y a M. Smith qui explique qu'alors il pourrait y avoir des gens avec des mitraillettes au fond qui tueraient le public, qui montraient, et tout ça. Et tout ça est expliqué au public, mais très, de manière très... direct, puisqu'il y avait la bonne Monsieur Martin Vaughn dans la salle pour expliquer au public que il y a des comparses qui sont dans la salle qui encouragent le public à monter sur la scène. Et puis il y en a d'autres sur la scène qui disent mais quand ils arrivent alors on les tue avec des mitraillettes là. Donc tout le monde est comme ça. Et on se dit, c'est reparti, vous voyez, dans une chose magicienne un peu, on parle au public, et puis peu à peu, les acteurs repartent dans un propos complètement absurde. Et la fin c'est on explique qu'à la fin on dit bande de coquins, bande de salauds, tout ça, et parce qu'on n'arrête pas de dire et le rideau tombe très vite. Et ils attendent que le rideau tombe très vite, et le rideau ne tombe pas, puis à ce coup ça s'éteint, ça finit comme ça, c'est-à-dire ça finit en queue de poisse. Mais dès le départ c'était ce que je voulais faire, c'est-à-dire que il y a encore un. C'était quoi l'absurde en 90 ouais. Alors c'était. Ce jeu aussi, je trouve que c'est une formidable machine à jouer, c'est-à-dire à faire du théâtre. Donc c'était, ça parle de la petite bourgeoisie, mais c'est surtout une parodie de théâtre.
Oui,
et il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs. C'est une parodie de théâtre, c'est-à-dire que bah, ça se moque de la comédie policière, ça se moque du théâtre de Boulevard, ça se moque du théâtre bourgeois, la Bernstein, tout ça, enfin, d'un théâtre un peu... par moment des tout petits bouts comme ça, mais qui font très grand sentiment à la Bernstein, très théâtre anglais, et puis ça se moque aussi de Brecht, et puis ça se moque de la mise en scène, enfin ça se moque un peu de tout, quoi. Alors en fait je crois que c'est une machine pour faire du théâtre, c'est-à-dire dès le départ, les gens se disent, bon ben le décor, on voit que c'est un décor. Alors vous savez, il y a toujours le public qui se dit, ah oui, on voit que c'est un décor, puis il y a le public qui trouve que, bah...
le décor est pas
voit, oui, mais c'est-à-dire qu'on voit que là-bas... Alors il y a du public qui trouve que vraiment ils auraient pu mettre deux murs comme ça pour voir que c'est pas comme ça. Et puis comme au bout de 20 minutes, la bonne en a tellement marre de passer par la porte, elle passe par où on n'a pas le droit de passer dans un décor, mais elle passe quand même parce que c'est quand même plus pratique. Les gens se demandent, quoi. Voilà. Les gens s'inquiètent de ces choses-là. Puis sur les perspectives aussi, c'est-à-dire comme si ça avait un peu loupé, quoi. Les meubles de jardin sont tout à la face, ils sont très gros. On se dit, c'est bizarre, mais ça doit être parce que c'est profond. Et puis en fait, on s'aperçoit quand l'actrice va au fond, comme elle mesure 1m90, quand elle arrive derrière la porte est à 1m50, il y a un problème. Mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Là, c'est Laurent Peduzzi qui a fait le décor, et c'est très réussi sur les perspectives. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas sûr.
Oui, quoi. Sur un léger décalage.
Oui, c'est comme dans le texte, c'est-à-dire on n'est pas bien sûr d'avoir bien entendu. Et sur le plateau, on se dit, est-ce que j'ai bien vu, quoi. Parce que quand même, je trouve que le texte... Là, j'en suis convaincu maintenant que ça s'est déjà joué, c'est que le public, lui, il est très surpris que ce soit pas si absurde que ça. C'est très cohérent. Il y a une vraie cohérence à l'intérieur. Alors bon, il a vraiment étudié mot par mot, mais on voit qu'il dit ça, et puis plus tard il dit ça, et donc ça fait très allusion. Je sais pas, elle dit au début, la bonne dit mon vrai nom est Sherlock Holmes, et une heure plus tard, M. Martin dit... les bonnes peuvent faire parfois d'excellents détectives. Vous voyez, l'espèce de à peine, c'est-à-dire ça revient, alors tout a l'air toujours d'être en écriture. On a l'impression que c'est des phrases les unes au bout des autres, un peu comme je sais pas qui, par Dieu, je sais pas. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que. Mais je disais toujours aux acteurs qu'il fallait qu'il y ait des secrets. Quoi. C'est-à-dire que. Ils ont des secrets. Quoi. Alors on ne comprend pas tout. Ils se disent, là, ils ont l'air d'avoir un truc entre deux, là, quoi, mais. Alors des fois ça se découvre plus tard. Et puis vous savez, c'est comme comme ce propos policier, sauf qu'on n'a pas la solution des énigmes. Vu qu'il dit ça, ça fait un peu boum boum façon Hitchcock, ça s'éteint, ça se rallume, on est passé à autre chose. Alors on ne sait pas pourquoi il lui a dit ça. Est-ce que ça va avoir une suite ou pas? Vous savez, des fois, il y a des espèces de longues constructions. Vous savez, toutes les histoires où la porte, il y a quelqu'un, il n'y a personne. Une espèce d'enfer. Une espèce d'enfer invraisemblable, il n'y a personne avec la porte. Alors ça dure une plombe et on se dit à la fin, bon, mais qu'est-ce qui va arriver, quoi? Et puis en fait, on passe à autre chose. On s'en fout, après. Alors qu'on a mis une heure pour résoudre un problème infime, quoi.
Justement là, excusez-moi, oui, je m'avais donné beaucoup d'éléments de réponse, mais qu'est-ce qui fait que vous, jeune metteur en scène doublé d'un auteur, qu'est-ce qui fait que vous êtes tourné vers ce texte?
Ce que
c'est D'abord, moi j'adorais la pièce quand j'avais 15-16 ans. J'adorais la pièce quand j'avais 15 ans. Et alors, dans le théâtre français, enfin. Il savait que j'avais un parcours, comment dire, plutôt athéno, tout ça. Alors quand on disait qu'on voulait
les mettre ensemble avec quelque chose extraordinaire.
Aussi maintenant, ça fait... à l'automne prochain, ça fait 5 mois de tournée, tout le monde se dit, ah oui, voilà quelle idée géniale d'avoir monté ça. Mais, par exemple, on a eu beaucoup de mal à monter la production. Ça se met relativement cher. Et on a eu beaucoup de mal à monter la production. Parce que dans le cas français, c'est une pièce... vieille, désuète, pas politique, tout ça, pas très... Il y a quand même une mode très esthétisante. Bon, alors, on dit la connerie show, oui, par exemple, on a eu des vrais problèmes là, sur la requête, parce que ça se fait lourd, hein, c'est-à-dire, au niveau lumière, c'est très lourd.
Ah ouais.
Niveau... Oui, oui, parce qu'il y a...
Ce qui semble un peu paradoxal, quand même.
Non, parce que c'est assez lourd, parce que, par exemple, il y a un robot, parce qu'il y a une lune, qui fait sa vie, puisqu'il reste dehors. Il fallait résoudre le problème de l'horloge. Donc, du temps. Donc, comme ça se passe dehors, il y a la lune. Bon, mais la lune, elle est en quart, en demi, en cercle. Et puis, elle se balade, et puis elle fait des tours, qu'elle revient. Enfin, c'est ce qu'elle veut. Voilà. L'une, c'est sur l'autre, ce qu'elle veut. Il y a deux objets inanimés qui font ce qu'ils veulent, c'est la maison et la lune. C'est-à-dire, les éléments du décor sont... important. Donc par exemple, ce robot était ça rendait les choses au niveau lumière un peu compliquées. Bon, ça, c'est un spectacle pour un assez grand plateau.
Ah oui,
parce que c'est quand même une maison qui elle a des perspectives. Bon, enfin, elle fait quand même 6 mètres de haut. Donc c'est un décor assez grand. Donc c'était compliqué financièrement. Enfin, c'était pas un spectacle léger. Et que la connatrice chauffe, c'est une pièce vraiment qui avait une mauvaise réputation au niveau des décideurs. C'est-à-dire même pas au niveau du public, visiblement, mais au niveau des... Parce que, je sais pas, parce qu'elle n'est pas politique, parce que Ionesco a été quand même très connoté à droite, et que le théâtre français est, croit-il, connoté à gauche. Il le croit, mais c'est pas si sûr. Donc, heureusement qu'on sait qu'ils sont de gauche, parce qu'on pourrait croire qu'ils sont de droite, mais enfin, bon, admettons qu'ils sont de gauche. Donc, avec tout ça, ça existe, enfin, je pense que... Et alors, il y a 10 ans, j'avais envie de mettre... Au début, j'ai commencé à faire du théâtre professionnel, je savais que j'avais envie de mettre en scène. Heureusement que j'ai pas fait 10 ans, parce que j'aurais fait... J'aurais pas pu faire un spectacle comme ça. Mais et puis j'avais toujours très envie. Et puis, je m'étais dit, en fait, je vais faire une chose sur la petite bourgeoisie française. Et c'était très différent par rapport à tout ça. Une chose que j'avais fait avant, j'avais travaillé sur des textes du 18e siècle, principalement, et puis sur des textes très contemporains. Donc j'étais vraiment très loin de ça. Et puis, un jour, j'ai eu envie de faire un... J'avais d'abord envie de par les acteurs avec qui j'avais travaillé à un moment donné, j'avais envie de faire de mettre en scène des choses drôles. C'est une chose. Et puis aussi, j'avais envie de faire un travail sur la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie. Et j'ai mis en scène En purge bébé de Fédot, et je m'étais dit, je voudrais mettre en scène En purge bébé de Fédot, et la peut-être est chaude. L'idée d'ailleurs au départ, c'était quasiment de faire un spectacle de 3 heures avec les deux pièces. Ça a été très compliqué tout ça, mais bref, on a monté En purge bébé. Comme En purge bébé, je trouve, c'était pas un spectacle très abouti, mais ça, comment dire, ça m'a conforté dans l'idée que la contactrice chose, c'était... Enfin, on pouvait faire autre chose que ce qu'on attendait, c'est-à-dire un peu, théâtrice gauche des années 50. Alors on s'est lancé là-dedans, c'est-à-dire que c'est un vieux projet, c'est-à-dire que c'est une piste que j'avais très très envie de faire. Mais c'est très étrange parce que, peut-être de par mon parcours, tout le monde trouvait que, oui, c'était un très bon gag de dire ça, mais que c'était une idée idiote, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire... parce que je crois que c'est... Moi, j'ai... En plus, quand j'ai vu les chaises de Jean-Luc Poutet, ça faisait très longtemps que je voulais mettre en scène Ionesco, je me suis dit, il a vraiment raison, c'est-à-dire que c'est un auteur formidable. Enfin, alors les gens de la génération leur parlent de Ionesco, ils sont absolument atterrés. Enfin, oui, c'est vrai, enfin, ils ne citent que des gens, comment dire, plus... Je comprends d'ailleurs, hein, mais je trouve que cette pièce-là est une pièce, c'est une machine à faire du théâtre. Mm-hmm. Voilà. Contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire on se dit, oh là là, c'est très... abstrait, il n'y a pas de travail pour les acteurs, enfin c'est un truc sur les mots, et pas du tout. Enfin, mais c'est parce que bon, c'est dans ma tête aussi, je crois. Je sais pas. Après tout, je comprends que plein de gens n'aiment pas Ionesco. Il y a des auteurs dont je comprends qu'on les aime, et puis moi je les. J'ai François Rossignac a mis en scène une pièce de moi, donc je connais bien. Et alors, au moment où j'ai mis en scène la Grande Inscription, il était absolument atterré de cette idée. Et lui, il a mis en scène Ondine de Giraudoux. Et je quand il se met en scène Ondine de Giraudoux, pareil, mais alors vraiment, là, c'est surréaliste. Donc c'est comment on est, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je plaisantais tout à l'heure sur Bernstein. Et que quand Arella a mis en scène le voyage de Bernstein, j'ai décidé que c'était vraiment intéressant. Enfin, intéressant, mais même pas que ça. Enfin, formidable pour les acteurs. Et le voyage de Bernstein mis en scène par Cantarella, c'était un spectacle formidable. On se dit, Dieu de Dieu, Bernstein, qu'est-ce qui... Enfin, ça va pas, ils sont tombés sur la tête. C'est vrai quand même. Je suis sûr qu'un metteur en scène qui aurait 13 ans, qui aurait vraiment eu... Il y a des choses à faire avec Sacha Guitry dont on serait très surpris, je suis sûr de ça. Et on se dit, Sacha Guitry, si par exemple moi j'essayais de monter une pièce de Sacha Guitry, me regarderait en se disant ça va pas bien. Et je trouve que par exemple Désiré de Sacha Guitry, c'est une pièce vachement bien, c'est vraiment bien. Alors bon, après, c'est comment elle était français, enfin, ce que fait ici. Enfin, même à l'intérieur de l'avant-garde, pseudo-avant-garde, c'est la conventionnelle achevée souvent. Enfin, c'est bon. Et que je trouve que sur la Canatrice Chauve, j'aime beaucoup, beaucoup le roi Sommer. Beaucoup. Par exemple, je sais pas, je regarderais, ça m'aurait pas, ça me serait pas bien l'idée, je crois, de mettre en scène le rhinocéros, par exemple. Ça m'intéresse pas, enfin, pas au point de travailler dessus, mais le roi Sommer, oui, c'est sûr aussi. Et puis bizarrement aussi, je trouvais que c'était... comment dire... je sais pas pourquoi il y avait un rapport d'injustice à l'égard de la Côte chaud. Parce que c'est quand même un peu tragique ce qui se passe. Le fait que ce soit toujours au théâtre de la Huchette,
oui.
C'est comme si c'était bloqué à cet endroit-là.
C'est bloqué.
Oui, c'est bloqué.
De toute façon,
oui,
Paris, c'est bloqué.
Ah, mais surtout, vous ne l'entrez pas. Alors oui, ça, vous n'entrez pas, vous passez pas les murs. Nous, on joue à Malakoff et vous n'entrez pas dans Paris. Bon, ça, c'est territoire gardé. Et par exemple, il se passe, je dis ça parce que j'ai voulu monter en attendant Godot. C'est quelque chose qui arrive avec Beckett. C'est-à-dire que, déjà de son vivant, c'était déjà pas drôle. Mais alors, depuis qu'il est mort, il y a les gardiens du temple. Alors, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ils sont en gris avec des sacs à patates, ils ont des chapeaux blancs sur... Enfin, j'exagère, mais pas vraiment. Ils ont des chapeaux blancs sur la tête. Moi, je voulais monter en attendant Godot, je voulais que Lucky, ce qui n'est pas une idée bien géniale, se jouer par une fille... mon Dieu, Beckett fait des valses dans sa tombe, soi-disant. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Et que si il n'y a pas une espèce de fou qui arrive à trouver que... Et Beckett et Lado, qui sont des hommes géniaux, mais peut-être le temps a changé aussi. Si personne n'arrive à leur prouver qu'on peut faire autrement, ça va être des pièces de musée. Enfin, en tout cas, pour les 15 ans qui viennent, ça va être des pièces de musée. C'est-à-dire qu'il paraît qu'on va remonter au Les Beaux Jours, mais ça va être avec obligatoirement l'ombrelle, le machin, le truc, c'est obligé. Enfin, et puis en plus, bon, c'est Denis Jans, alors peut-être qu'ils vont avoir la possibilité de faire un peu différemment, j'espère, en tout cas. Je suis même un peu convaincu, mais sur un attour de Godot, il y a un cahier des charges qui fait que, bon, c'est méconnaître d'ailleurs comment est le théâtre.
Parce que c'est refuser de considérer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des machines à
théâtre. Oui, bien sûr. Et puis en plus, le théâtre, c'est pas que l'auteur, ou alors il faut...
Oui, complètement. Ah,
c'est idiot, c'est une idée idiote d'ailleurs. Enfin, c'est très bizarre d'ailleurs, parce que ce sont des hommes intelligents, puis d'un seul coup, on est un peu bloqué. Et sur le cas de la Côte chaude, il y a cette idée-là. Elle n'est pas imposée, puisque Ionesco donne des droits. Mais elle est imposée, comment dire, aux décideurs, ce qui revient au même. Et que... Vous dites, je vais monter la Canatrice Chauve, et il se dit, ah ben oui, ça va être comme à la Huchette. Et d'ailleurs, enfin, on a eu un peu des soucis à un moment donné, parce que il y avait un gros projet de tournée, mais les gens avaient un peu idée d'acheter, a priori, un spectacle petit.
C'est ça, oui.
comme la Huchette ne tourne pas, ou a tourné à peine, mais ne tourne pas, ils se disent, bon ben ça y est, on va avoir le truc qui a marché depuis très longtemps, alors que c'est pas ça, on remonte la pièce. Mais c'est comme si la pièce était restée bloquée. Enfin, c'est compliqué, c'est assez compliqué. Michel Rasquet a monté 8 clos de Jean-Paul Sartre, mais il m'a raconté la même chose, c'est-à-dire qu'il a dit, d'un seul coup, quand Régie a mis en scène, d'un seul coup, parce qu'il m'a dit, j'étais sûr que 8 clos ça marchera. Enfin, quand on monte un spectacle, on est sûr que ça va marcher, etc.
Ça vaut mieux,
oui. Ça vaut mieux, c'est quand même a priori plutôt agréable. Mais il me disait, les gens, ils se disent, pourquoi monter 8 clos, c'est une pièce barbante avec du mobilier Napoléon III, tout ça. Alors que c'est idiot, parce qu'on dirait jamais obligatoire. Enfin, même moi, je ne sais pas, on monte Shakespeare comme on veut, sans que quelqu'un nous dise, ça se monte comme ça. Voilà. Et qu'il y a une ou deux pièces, soit dans le cas Lindon, Beckett, alors là, ils ont signé des papiers dans tous les coins qui fait qu'on ne peut rien faire, ou alors, comme Ionesco, où, comment dire, c'est resté, c'est la rumeur, c'est une espèce d'a priori qui est resté bloqué, qui a fait comme ça. Parce que Ionesco me semble être... un auteur beaucoup plus vivant que ça. Enfin, son œuvre me paraît plus aujourd'hui que ça. Je crois que on monte à la colline le roi se meurt.
Non,
Macbeth. Et je me prononce pas le roi se meurt. Et c'est bien, je sais que c'est une bonne idée. Voilà, une bonne idée. Pour les acteurs, pour les metteurs en scène, pour le public. Je ne sais pas si ça marchera ou pas, mais oui. ça me paraît bien. Quoi. Parce que je pense que c'est du théâtre, comment... C'est idiot de le dire, mais plus intéressant que ce que les gens de théâtre à un moment donné ont répondu. Et puis, alors s'il y a bien un auteur qui a un coup de terrorisme intellectuel, c'est lui, ça, c'est, je suis sûr. Ah oui, c'est vrai, enfin, c'est comme une chose... ça s'arrange, parce que je suis pas de cette génération-là, donc au fond, j'ai pas entendu les horreurs qu'il a peut-être dit, mais j'ai pas entendu les horreurs qu'on lui a répondu. Donc c'est vrai que ça me concerne pas, parce que je n'ai pas le souvenir de ça. Je comprends d'ailleurs qu'il puisse y avoir un propos comme ça, mais...
Justement, vous parlez de génération, est-ce que vous pouvez concevoir, vous, que cette pièce-là est complètement révolutionnée, finalement, l'histoire du théâtre?
Oui, c'est bizarre, mais
bon, à première vue, ça peut paraître étonnant.
Oui, en même temps, vu de 1980, parce que, bon, la pièce a été jouée pour la première fois, je pense, en 55, c'est ça?
Pour 55 ans,
55 ans. La première fois en 55, et le succès de la Huchette, c'est 57, je crois.
Ah, moi je suis, tu es ça, les années 50.
Non, 55. Et je suis né en 57. Ouais. C'est vraiment avant que je sois né, donc ça me paraît vraiment. Et en même temps, c'est pas comme une pièce du 17e siècle, c'est une pièce contemporaine. Mais ça me paraît, je me rends pas bien compte parce que, d'abord, dans le côté. C'est comme un peu un bout de course. Enfin, c'est comment dire, c'est pas une impasse, mais pas loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est allé très loin dans cette chose-là, dans l'absurde, comme ça. Et puis après, il n'y a pas eu vraiment de successeur. Il y a eu un peu comment on appelle ça, il y a eu des copies de ça. Mais il n'y a pas eu, ça n'a pas été prolongé. Et comme Beckett, d'ailleurs, est une branche qui n'a pas vraiment fait petit, c'est pas vrai. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu fermé. C'est-à-dire que, comme si tu es allé au bout de quelque chose, un peu, comme ça. Enfin, Beckett plus, d'ailleurs, mais tu es allé au bout de quelque chose. Donc il n'y a pas eu de suite à ça. Mais, par contre, je ne suis pas spécialiste, mais ce que je disais sur Fedot, je trouve qu'il y a un héritage. Lui, il est quand même, quand on remet ça calmement, là, on se dit pas, c'est la révolution, je sais pas quoi. On n'a pas le côté scandaleux qu'il y a dû avoir à l'époque de voir ça, de penser, je ne sais plus comment avait dit les critiques de l'époque, c'était du monde, enfin tout ça. On pense pas ça maintenant. Mais parce qu'on sait que ça a eu du succès, enfin, c'est compliqué, on n'est pas si intelligent que ça. Mais par contre, quand on met ça à plat, on se dit... Moi, je trouve qu'il y a des choses d'absurdité totale chez Georges Fedot. Il y a des choses invraisemblables. Enfin, moi, j'ai monté au Purge Bébé, et peut-être parce que je pense à les côtés des choses, mais il y a des phrases qui ne dépareraient pas, qui sont... qui sont d'une absurdité totale, qui sont d'une incohérence totale. Il y a des choses comme ça chez La Biche. Et puis, bon, avant, il y avait des mecs comme Jarry, ou Ionesco, il y a eu Jarry, enfin, des surréalistes, et tout ça. Au fond, ce qui est un peu bizarre, c'est comme s'il avait fait le premier succès populaire d'avant-garde. Enfin, c'est-à-dire que, alors c'est toujours un peu comment dire, c'est presque une œuvre de vulgarisation de 30 ans d'écriture automatique, d'absurde, de surréalisme, de détournement, de pastiche. On a l'impression que d'un seul coup, il a tout mis en 1h30, enfin 1h20 même, d'ailleurs, quand on monte la pièce, pas que la pièce. Hein. Et puis, comment dire, comme si c'était encore maintenant, je ne sais pas comment ça va être dans la rue de Parisienne, mais. Enfin, le public est toujours un peu différent, mais pour moi, ce que je disais, c'est que c'est vraiment encore une chose d'avant-garde.
Ah oui, ça demeure. Hein.
Ah oui, 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 oui. Il doit être très étrange, très étrange. Beaucoup plus qu'un Bernard-Marie Goltès, qui paraît au fond beaucoup plus classique, j'ai l'impression. Enfin, il semble en tout cas. C'est comme une chose. Ça reste. Picasso, quoi. Enfin, vous voyez, c'est, ça reste. Alors il y a les imbéciles heureux qui vous disent mon gosse en fait autant quoi, enfin, vous savez sur Picasso. Oui. Alors les gens vous disent moi des pièces comme ça j'en écris tous les matins, et puis il y a ceux qui trouvent que vraiment il ne faut pas chercher à comprendre, c'est génial et tout ça, mais c'est, oui, je ne sais pas pourquoi ça fait penser au discours un peu plus jadis sur Picasso, sur que l'enfant est sur les discours. Comme il y a encore des gens qui pensent que c'est un sacré petit comique et que. Et qu'il s'est payé la tête des gens et que ce type-là soit à l'Académie française et qu'un jour on va le démasquer. J'étais une fois une émission avec lui à France Culture.
Ah
oui. Oui, enfin j'étais invité pour une pièce et puis lui il était là, alors on était les deux, et alors il est. J'en ai dit. C'était comme ça, c'était le début. Je me pense que c'était de faire un essai son et alors. Il y a quelques années, il était déjà très âgé. Et alors, il dit comme ça, on lui dit, Ionesco, c'est un nom très courant en Roumanie. Et il me dit, en Roumanie, alors il a dit ça, il a dit, en Roumanie, 95% des gens s'appellent Ionesco et l'autre moitié s'appelle Popesco. Je me suis dit, c'est pas comme ça, c'est vraiment génial. Vous êtes comme ça, ils vont me dire, ça va être très dur, ça va être une émission d'une heure et moi je vais pas tenir parce que ça va être génial, quoi. C'est-à-dire que, parce que c'est tellement tout de suite. Tous les petits comiques français aujourd'hui, ils essaient de faire des trucs comme ça, ils n'y arrivent pas. Ils cherchent comme ça à faire des phrases comme ça, ils n'y arrivent pas. Mais parce que je crois qu'il a une chose. Comment dire ? Moi, je pense qu'il n'est pas loin, en effet, de se fiche du monde, mais il a une raison. Quoi. Enfin, à l'époque, il est loin de se faire encore maintenant, d'ailleurs. D'ailleurs, je suis sûr que tout ce problème soit. Ben, ça nous éloigne un peu de la connaissance, mais tout cette chose sur l'opinion politique et tout ça. Quelque part, je ne connais pas bien, mais j'ai lu des livres, notes et contre-notes, j'ai fait des articles aussi, quand je travaillais sur le spectacle. Et ça n'interférait pas dans ce que j'avais envie de faire, mais je soupçonne un tout petit peu des fois d'avoir poussé le bouchon.
Un peu loin,
ouais. Il y a eu des trucs sur les Khmer Rouges et tout ça. Céline, des fois, il en remet, quoi, c'est des vrais. Donc, il en passe un peu dans la provocation, ouais. Et alors il le fait. Enfin, assez bizarre, quoi. C'est-à-dire, il dit vraiment au-delà de ce qu'on pouvait espérer, voilà. Il attaque Elsa Triolet, Jean-Paul Sartre, François Mondial, osera dire, oui, donc. Et Ionesco, il y a un peu de ça. Mais par contre, donc, c'est vrai qu'il a eu droit à une espèce de purgatoire, enfin, parce qu'à l'étranger, Ionesco, c'est la star absolue. Hein.
Ouais.
Ah oui, je crois chez les Anglo-Saxons, les Américains, si ça leur paraît.
Donc vous allez pouvoir tourner à l'étranger, là.
Ah, bah, c'est bien.
Oui, oui.
Ouais.